Évanoé, chapitre 43. Notre histoire nous oblige maintenant de revenir à l'extérieur du château, ou préceptorerie de Templestowe, vers l'heure où allait être jeté le sanglant coup de dé qui devait décider de la vie ou de la mort de Rebecca. C'était une scène de bruit et de mouvement, comme si tous les alentours avaient réuni leurs habitants à une assemblée de village ou à une fête champêtre. Mais le plaisir inhumain que produit la vue du sang et de la mort n'appartient pas exclusivement à ces temps d'ignorance, quoiqu'alors on fût habitué à voir les arènes de la chevalerie fréquemment ensanglantées, soit par les combats singuliers, soit par les combats généraux. Même de nos jours, où les principes de la morale sont mieux compris, une exécution capitale, un combat de boxeurs, une émeute ou une assemblée de réformateurs radicaux attirent toujours la foule et réunit à leurs risques et périls une multitude de spectateurs qui, pour la plupart, n'ont d'autre intérêt à l'événement que de voir comment les choses se passeront et si les héros du jour sont, pour employer le langage des tailleurs en émeute, des coqs ou des canards. Une foule considérable avait les yeux fixés sur la porte de la préceptorerie de Templestowe, dans le but de contempler la procession, tandis qu'un peuple encore plus nombreux entourait déjà le champ clos attenant à cet établissement. Cet enclos se composait d'un plateau de terrain contigu à la préceptorerie, qu'on avait nivelé soigneusement pour le rendre propre aux jeux chevaleresques et aux exercices militaires. Ce champ clos occupait le bord d'une colline douce et facile et était entouré de palissades. Et comme les Templiers appelaient volontiers des spectateurs pour être témoins de leur adresse dans les exercices de chevalerie, l'enclos était amplement garni de galeries et de bancs à leur usage. Dans l'occasion actuelle, on avait érigé un trône à l'extrémité orientale pour le grand maître, entouré de sièges d'honneur pour les précepteurs et leurs chevaliers de l'ordre. Au-dessus de ces sièges flottait l'étendard sacré, appelé le Beauséant, qui était l'enseigne des Templiers et dont le nom leur servait de cri de guerre. À l'autre extrémité de la lice était dressé un tas de fagots rangés autour d'un poteau fixé fortement en terre. La victime devait être amenée sur ce fatal bûcher pour être enchaînée au poteau par des entraves qui y restaient suspendues pour cet emploi. Près de ce terrible appareil se tenaient quatre esclaves noirs, dont le teint et les traits africains, alors si peu connus en Angleterre, effrayaient le peuple, qui les regardait comme des démons employés à leurs fonctions infernales. Ils étaient complètement immobiles, si ce n'est que, de temps à autre, il faisait un mouvement pour attiser et renouveler le combustible. Il ne jetait pas les yeux sur la foule. Il semblait insensible à tout ce qui les entourait, sauf à l'accomplissement de leur horrible devoir. Et quand, se parlant les uns aux autres, ils ouvraient leurs lèvres épaisses et découvraient leurs dents blanches, comme s'ils eussent souri d'avance à la scène tragique qu'ils attendaient, la populace épouvantée ne pouvait s'empêcher de croire que ce fussent là, en effet, ces esprits surnaturels avec lesquels la sorcière s'était entretenue, et qui, à l'expiration du temps qui leur avait été accordé sur terre, venaient assister à son terrible châtiment. Les assistants se parlaient à l'oreille et se communiquaient tous les faits que Satan avait accomplis pendant cette époque d'agitation et de malheur, ne manquant pas nécessairement de donner au diable un peu plus que ce qui lui était dû. « Avez-vous entendu dire, père Denet ?» demanda un jeune paysan à un vieillard, « que le diable a emporté le corps du grand âne saxon à Telstan de Königsbourg ?»« Oui, mais il l'a ensuite rapporté, grâce à Dieu et à Saint Dunstan. » « Comment cela ?» demanda un jeune homme bien découpé, habillé d'une tunique verte brodée d'or, et ayant à ses trousses un gars vigoureux qui portait sur son dos une harpe, indice de la profession de son maître, lequel ne paraissait pas un ménestrel d'un rang vulgaire, car outre la splendeur de son pourpoint richement brodé, il portait à son cou une chaîne d'argent, à laquelle était suspendue la clé dont il se servait pour accorder sa harpe. Une plaque d'argent était attachée à son bras droit, mais au lieu de porter, comme à l'ordinaire, l'enseigne de quelque baron à la famille duquel il aurait pu appartenir, on y lisait seulement le mot « Sherwood ». « Qu'entendez-vous par là ?» demanda le galant ménestrel en se mêlant à la conversation des paysans. « Je suis venu chercher ici un sujet de balade, et, ma foi, je serai content d'en trouver deux. » « Il est bien entendu, » dit l'aîné des paysans, « qu'après qu'Athelstan de Königsbourg ait été mort pendant 4 semaines... « Cela est impossible !» s'écria le ménestrel. « Je l'ai vu bien vivant à la passe d'armes d'Asby de la Zouche. »« Il était mort, cependant, disparu du monde !» dit le jeune paysan. « Car j'ai entendu les moines de Saint-Edmond chanter pour lui l'hymne des morts. » Et de plus, il y a eu un somptueux banquet funèbre au château de Königsbourg, comme de juste, et j'y serais bien allé, moi, sans ma belle Parkins qui... « Oui, Athelstan était mort, » dit le vieillard en secouant la tête. « Et c'est grand dommage, car le vieux sang-saxon... »« Mais votre histoire, mes maîtres, votre histoire !» dit le ménestrel avec quelque impatience. Oui, oui, contez-nous l'histoire, dit à son tour un gros frère qui se tenait près d'eux appuyé sur un bâton. Contez-nous votre histoire, s'écria le robuste prêtre, et ne consumez pas la journée, nous n'avons pas de temps à perdre. S'il plaît à votre révérence, ajouta Denet, un prêtre ivre était venu rendre visite au sacristain de Saint-Edmond. Il ne plaît pas à ma révérence, répondit l'ecclésiastique, qu'il y ait eu là un animal tel qu'un prêtre ivre, ou s'il y en a eu, qu'un laïc le dépeigne comme tel. Sois poli, mon ami, et conclue de là que ce saint homme était abîmé dans une méditation qui rendait sa vue trouble et ses pieds chancelants comme s'il se fût gorgé de vin nouveau. Cela peut arriver, je le sais par expérience. Eh bien, donc, répondit le père Denet. Un saint frère vint visiter le sacristain à Saint-Edmond. Ce visiteur était une espèce de prêtre champêtre qui tue à lui seul une moitié des daims qu'on vole dans la forêt, qui préfère le glouglou de la pinte de bière au son de la cloche de son ermitage, et qui estime qu'une tranche de lard vaut 10 pages de son bréviaire. Du reste, un bon gaillard qui sait manier un bâton, tirer un arc et danser une ronde aussi bien que le meilleur homme du comté d'York. Cette dernière phrase, Denet, lui dit le ménestrel à demi-voix, t'a sauvé plus d'une côte. Bah, je ne le crains pas, l'ami, reprit Denet. Je suis un peu vieux et mes membres sont roides, mais quand j'ai combattu à Doncaster pour le bélier et la cloche. Mais l'histoire, mon ami! Dit encore une fois le ménestrel. Eh bien, voici en 2 mots ce que l'on raconte. Athelstan de Königsbourg était enterré au couvent de Saint-Edmond. « C'est un mensonge insigne, » dit le frère, « car je l'ai vu porter à son château de Königsbourg. »« Eh bien, si vous savez l'histoire, contez-la vous-même, mon maître, » dit Denet en se tournant d'un air d'humeur vers son contradicteur obstiné. Et ce ne fut pas sans peine que le rustre consentit à continuer son récit à la prière du ménestrel. « Ces 2 sobres frères, dit-il enfin, puisque ce révérend veut qu'ils soient sobres, avaient continué de piquer leur bonal, leur vin et des liqueurs pendant presque tout un jour d'été, lorsqu'ils furent réveillés par un profond gémissement et un bruit de chaîne. Puis, l'ombre d'Athelstan pénétra dans l'appartement en leur criant « Misérable pasteur !»« Mais cela est faux !» s'écria le frère vivement. « Il n'a pas prononcé un mot. »« Oh, frère Tuck !» dit le ménestrel en le tirant à l'écart. « Tu laisses donc prendre le lièvre au gîte. Tu t'es vendu toi-même. »« Je t'assure, Alan Adal, » reprit l'ermite, « que j'ai vu Athelstan de Königsbourg aussi bien que jamais yeux du corps ont pu voir un homme vivant. » Il portait son linceul et répandait autour de lui une odeur de sépulcre. Un muide de vin des Canaries ne l'effacerait pas de ma mémoire. « Bah !» répondit le ménestrel. « Tu plaisantes. Qu'on ne croit jamais un mot de moi, dit le frère, si je ne lui allongeais pas un coup de mon bâton qui aurait suffi pour assommer un bœuf, et si le coup ne lui glissa pas à travers le corps comme si c'eût été une colonne de fumée. Par Saint-Hubert, reprit le ménestrel, c'est un conte merveilleux et digne d'être mis en vers sur l'ancien air. La tristesse visita le vieux frère. Ris si tu veux, dit le frère Tuck. Mais si tu m'attrapes jamais à chanter sur un pareil sujet, que le premier spectre ou diable venu m'enlève sans tarder. Non, non, j'ai pris sur le champ la résolution d'aider à quelque bonne œuvre, comme à la grillade d'une sorcière, à un combat judiciaire ou à quelque service pareil, et voilà pourquoi je suis ici. Comme il parlait de la sorte, la lourde cloche de l'église de Saint-Michel de Templestowne, véritable édifice qui s'élevait à quelque distance de la préceptorerie, vint couper court à leur contestation. Leurs oreilles furent successivement frappées par ces mornes vibrations, ne laissant que juste l'espace qu'il fallait à chacune d'elles pour se perdre dans le lointain avant que l'oreille se sentît remplie de nouveau par la répercussion du glas de l'airain. Ces sons lugubres, signal de la cérémonie attendue, glacèrent d'épouvante les cœurs de la foule assemblée, dont les yeux se fixèrent sur la préceptorerie, d'où allait sortir le grand maître, le champion et la criminelle. Enfin le pont-levis s'abaissa, les portes s'ouvrirent, et un chevalier, portant le grand étendard de l'ordre, sortit du château, précédé de 6 trompettes et suivi des chevaliers précepteurs marchant 2 à 2. Le grand maître arriva le dernier, monté sur un coursier magnifique, mais dont le harnachement était des plus simples. Ensuite venait Brillant de Bois-Guilbert, armé de pied en cap d'une brillante armure. Ses 2 écuyers portaient derrière lui sa lance, son écu et son bouclier. Sa figure, quoiqu'en partie cachée par un long panache flottant sur son casque, annonçait une agitation violente, où l'orgueil semblait lutter avec l'irrésolution. Il était d'une pâleur mortelle, comme s'il eût passé plusieurs nuits sans fermer l'œil. Et cependant, il modérait les piaffements de son cheval de bataille, avec la facilité et la grâce habituelles à la meilleure lance de l'ordre du Temple. Il avait l'air fier et imposant, mais en le regardant avec attention, on voyait dans ses traits sombres une expression qui forçait à en détourner les yeux. À ses côtés étaient Conrad de Montfichet et Albert de Malvoisin, qui remplissaient les fonctions de parrain du champion. Ils portaient le vêtement de paix, la robe blanche de l'ordre. Après ceci, venaient les autres chevaliers du temple, avec un long cortège d'écuyers et de pages vêtus de noir, qui, à leur tour, aspiraient à l'honneur de devenir les chevaliers de l'ordre. À la suite de ces néophytes, s'avançait une escorte de gardes à pied, au milieu desquels on distinguait la pâle figure de l'accusé, qui marchait, d'un pas lent mais assuré, vers le lieu où allait se décider son destin. On avait dépouillé Rebecca de ses ornements, de crainte qu'il ne s'y trouvât quelques-unes de ses amulettes, que Satan, à ce qu'on supposait, donnait à ses victimes pour les priver du pouvoir de faire des aveux, même sous la force de la torture. Ses vêtements orientaux avaient fait place à une robe blanche, de la forme la plus simple. Cependant, il y avait un mélange si exquis de courage et de résignation dans son regard, que même sous cet habit, et sans autre ornement que ses longues tresses noires, tous les yeux pleuraient en la regardant, et le fanatique le plus endurci déplorait le sort qui convertissait une fille si aimable en un instrument nuisible et en une esclave du démon. La marche était fermée par un groupe de personnages d'un rang subalterne appartenant à la préceptorerie, marchant dans un ordre parfait, les bras croisés et les regards baissés vers la terre. Cette procession monta la pente douce, au sommet de laquelle se trouvait le champ clos, et entra dans la lice, dont elle fit le tour de droite à gauche. Quand il eut parcouru le cercle entier, le cortège fit halte. Il y eut alors un moment d'agitation, tandis que le grand maître et toute sa suite, à l'exception du champion et de ses parrains, mettaient pied à terre et que leurs chevaux étaient emmenés hors de l'enceinte par les écuyers. La malheureuse Rebecca fut conduite à une chaise peinte en noir, placée auprès du bûcher. En jetant le premier regard sur les préparatifs qu'on avait faits pour une mort aussi épouvantable à l'esprit qu'elle était douloureuse au corps, on la vit frémir et fermer les yeux en priant sans doute intérieurement, car sa lèvre remuait, bien qu'aucun son ne sortît de sa bouche. Au bout d'une minute, elle rouvrit les yeux, regarda fixement le bûcher, comme pour familiariser son esprit avec cette vue. Puis, par un mouvement lent et naturel, elle détourna la vue. Cependant, le grand maître s'était assis, et, lorsque les chevaliers de son ordre furent placés autour de lui, chacun selon son rang, une fanfare de trompettes, bruyante et prolongée, annonça que la cour siégeait pour le jugement. Alors Malvoisin, comme parrain du champion, s'avança et déposa au pied du grand maître le gant de la juive, gage du combat. « Vaillant seigneur et révérend père, dit-il, voici le brave chevalier Brillant de Bois Guilbert, chevalier précepteur de l'ordre du Temple, qui, en recevant le gage de bataille déposé au pied de votre révérence, s'est engagé à faire son devoir dans le combat d'aujourd'hui, pour maintenir que cette fille juive, nommée Rebecca, a justement mérité la sentence rendue contre elle par un chapitre du très saint ordre du Temple de Sion, la condamnant à mourir comme sorcière. Le voici, dis-je, prêt à soutenir le combat honorablement et en brave chevalier, si telle est votre sainte et noble volonté. » A-t-il prêté serment ? Demanda le grand maître. Que sa cause est juste et honorable, faites apporter le crucifix et le teigitur. Très révérend père, dit Malvoisin vivement, notre frère a déjà affirmé par serment la vérité de l'accusation entre les mains du brave chevalier Conrad de Montfichet, et il n'est pas tenu de prêter d'autres serments, son adversaire étant une infidèle qui ne pourrait être admise à prêter serment à son tour. Cette explication parut suffire à Beaumanoir, à la grande joie d'Albert, car l'astucieux chevalier avait prévu la grande difficulté, ou plutôt l'impossibilité, de déterminer Brillant de Bois Guilbert à faire un pareil serment en face de l'assemblée, et il avait imaginé ce subterfuge pour le soustraire à cette nécessité. Le grand maître, ayant déclaré que la formalité du serment avait été remplie, ordonna à un héros d'armes de s'avancer et de faire son devoir. Les trompettes sonnèrent de nouveau, et un héros d'armes, venant se placer au milieu des lices, proclama à haute voix. « Oyez, oyez, oyez ! Voici le brave chevalier Brillant de Bois Guilbert, prêt à combattre contre tout chevalier de naissance noble qui voudra soutenir la cause de la jeune Rebecca, à qui il a été permis, en légitime Eswan, de combattre par champion, auquel champion le révérend et valeureux grand maître, ici présent, accordera un bon champ et un partage égal au soleil et au vent, et tout ce qui peut assurer l'égalité des armes. » Le son des trompettes retentit de nouveau, et un silence solennel régna pendant quelques minutes. « Nul champion ne se présente pour l'appelante ? » dit le grand maître. « Héros, allez lui demander si elle attend quelqu'un pour combattre pour elle. » Le héros s'avança vers la chaise sur laquelle Rebecca était assise. Bois Guilbert, dirigeant soudainement son cheval vers cette extrémité d'hélice, en dépit des observations de Malvoisin et de Montfichet, se trouva près de Rebecca en même temps que le héros d'armes. « Cela est-il régulier et conforme à la loi du combat ?» demanda Malvoisin en s'adressant au grand maître. « Oui, Albert de Malvoisin, répondit Beaumanoir, car dans cet appel au jugement de Dieu, on ne doit point empêcher les parties intéressées d'avoir, l'une avec l'autre, des communications qui peuvent tendre à la manifestation de la vérité. » Cependant, le héros s'adressait en ces termes à Rebecca. « Damoiselle, notre honorable et révérend grand maître demande si tu as un champion pour livrer bataille aujourd'hui à ta place et pour ta cause, ou si tu te reconnais justement et légalement condamné à mort. « Dites au grand maître, » répondit Rebecca, « que je maintiens mon innocence et que je ne reconnais pas la justice de la sentence qui m'a condamnée, ne voulant pas que mon sang retombe sur ma tête. Dites-lui que je demande tel délai que ces lois permettent de m'accorder afin de voir si Dieu, dont la bonté suprême vient souvent à notre secours au dernier moment, me suscitera un libérateur. À l'expiration de ce délai, que sa sainte volonté soit faite. » Le héros porta cette réponse au grand maître. « À Dieu ne plaise, » répondit Lucas de Beaumanoir, « que juif ou païen eût à nous accuser d'injustice. Jusqu'à ce que les ombres descendent de l'Occident à l'Orient, nous attendrons pour voir s'il se présentera un champion pour cette femme malheureuse. Passé ce délai, qu'elle se prépare à la mort. » Le héros redit à Rebecca les paroles du grand maître. Elle inclina la tête en signe de soumission, croisa les mains sur sa poitrine, et les yeux levés au ciel, semblait attendre de là un secours qu'elle ne pouvait guère espérer des hommes. En ce moment de terrible attente, la voix de Bois Guilbert vint frapper son oreille. Ce n'était qu'un murmure, et cependant, cette voix la fit tressaillir plus que ne l'avait fait la sommation du héros. « Rebecca, » dit le Templier, « m'entends-tu ? Je n'ai rien à entendre de vous, homme cruel et farouche, » répondit la jeune fille. « Tu m'entends cependant, et le son de ma voix m'épouvante moi-même. Je sais à peine où nous sommes ou dans quel dessein on nous a conduits ici. Ce champ clos, cette chaise funèbre, ce fatal bûcher, je connais leur emploi, et cependant tout cela m'apparaît comme un rêve, comme le tableau terrible d'une vision qui épouvante mes sens, mais qui ne peut convaincre ma raison. « Mon esprit et mes sens sont également convaincus, » répondit Rebecca. « Ils me disent que ce bûcher est destiné à consumer ma dépouille mortelle et à m'ouvrir un chemin douloureux, mais court, vers un monde meilleur. » « Ce sont là des illusions, Rebecca, » reprit le Templier, « de vagues rêveries que rejettent même tes sages sadducéens. Écoute-moi, Rebecca, » dit-il d'un ton plus animé, « la vie et la liberté sont encore entre tes mains. Monte en croupe sur mon coursier, sur Zamor, le vaillant cheval qui jamais ne fit défaut à son cavalier. Je l'ai conquis en combat singulier contre le sultan de Trébizonde. Monte, te dis-je, et en peu d'instants nous serons à l'abri de toute poursuite. » Un nouveau monde de plaisir s'ouvrira pour toi. Pour moi, une nouvelle carrière de renommée. Qu'ils prononcent leur sentence, je la méprise. Qu'ils effacent le nom de Bois Guilbert de leur liste d'esclaves monastiques. Je laverai dans le sang la tâche qu'ils oseront faire à mon écusson. Retire-toi, tentateur, dit Rebecca. Retire-toi. Même dans cette extrémité, tu ne me feras pas faire un pas vers toi. De tous mes oppresseurs, c'est toi que je regarde comme le plus cruel. Arrière, au nom du Dieu vivant. » Albert de Malvoisin, impatient et alarmé de la durée de leur conférence, s'avançait en ce moment pour l'interrompre. « La jeune fille a-t-elle confessé son crime ? » demanda-t-il à Bois Guilbert. « Ou est-elle toujours résolue à le nier ? » ?»« Elle est résolue, en effet, » répondit Bois Guilbert. « Reviens donc, mon noble frère, » reprit Malvoisin, « reprendre ta place pour attendre l'événement. L'ombre s'avance sur le cercle des heures. Viens, brave Bois Guilbert, viens, l'espoir de notre saint ordre est bientôt son chef. » Tout en parlant de ce ton consolateur, il porta la main à la bride de Zamar, comme pour le reconduire à sa place. « Misérable hypocrite !» s'écria Brillant en fureur. « Comment oses-tu porter la main sur les rênes de mon cheval ?» Et, repoussant son compagnon de manière à lui faire lâcher prise, il regagna au galop l'autre extrémité des lices. « Il ne manque pas de chaleur, » dit Malvoisin à demi-voix à Montfichet, « si elle était bien dirigée, mais comme le feu grégeois, il brûle tout ce qu'il touche. » Les juges étaient déjà depuis 2 heures dans les lices, attendant vainement l'arrivée d'un champion. « Il y a de bonnes raisons pour cela, » dit le frère Tuck à un de ses voisins. « C'est qu'elle est juive. Et cependant, par mon ordre, c'est dommage qu'une fille si jeune et si belle périsse sans qu'un seul coup soit donné pour la sauver. Serait-elle 10 fois sorcière, et si elle était tant soit peu chrétienne, mon bâton sonnerait midi sur le casque d'acier de ce farouche templier avant qu'il l'emportât ainsi. » Cependant, l'opinion générale était que personne ne pouvait ni ne voulait paraître pour soutenir la cause d'une juive accusée de sorcellerie. Et les chevaliers, à l'instigation de Malvoisin, se disaient tout bas les uns aux autres qu'il était temps de déclarer que Rebecca n'avait pas racheté son gage. En ce moment, un chevalier, poussant son cheval à toute bride, parut dans la plaine, se dirigeant vers le champ clos. Aussitôt s'envoie ses cris. « C'est un champion ! C'est un champion !» Et en dépit des préventions et des préjugés de la multitude, il fut accueilli par des acclamations unanimes lorsqu'il pénétra dans les lices. Mais le second coup d'œil détruisit l'espoir que son arrivée avait fait naître. Son cheval, qui venait de faire plusieurs lieues à franc étrier, paraissait chanceler de fatigue. Et le cavalier, malgré l'audace avec laquelle il se présentait dans la lice, soit faiblesse, soit fatigue, soit par ses causes réunies, semblait à peine capable de se soutenir en selle. À la sommation du héros, qui lui demanda son nom, son rang et la cause de sa présence dans l'hélice, le cavalier étranger répondit vivement avec hardiesse. « Je suis noble et bon chevalier, et je viens ici soutenir par la lance et l'épée la cause juste et légale de cette damoiselle Rebecca, fille d'Isaac d'York. Déclarer la sentence prononcée contre elle fausse et calomnieuse et défier Sire Brillant de Boisguibert comme traître, meurtrier et menteur, ainsi que je le prouverai en combattant corps à corps avec lui, à l'aide de Dieu, de Notre-Dame et de Monseigneur Saint-Georges le Bon Chevalier. » « Il faut avant tout, dit Malvoisin, que l'étranger justifie qu'il est bon chevalier et de noble lignage. Le temple ne laisse pas combattre ses champions contre des hommes sans nom. « Mon nom, s'écria le chevalier en levant la visière de son casque, est mieux connu, mon lignage plus pur que le tien, Malvoisin. Je suis Wilfrid d'Ivanhoé. » « Je ne combattrai point en ce moment contre toi, dit le templier d'une voix sombre et altérée. Va faire guérir tes blessures, procure-toi un meilleur cheval. Et peut-être alors daignerai-je consentir à châtier tes puériles bravades. « Ah, fier templier !» dit Ivanhoé. « As-tu donc oublié que deux fois tu as succombé sous cette lance ? Souviens-toi des lys d'Acre. Souviens-toi de la passe d'armes d'Asby. Souviens-toi de tes orgueilleuses vanteries dans la salle de Rotherwood et du gage que tu as déposé, ta chaîne d'or contre mon reliquaire. » Que tu combattrais contre Wilfrid d'Ivanhoé pour recouvrer ton honneur perdu. Par ce reliquaire et par la sainte relique qu'il renferme, je jure de te proclamer lâche dans toutes les cours de l'Europe, dans toutes les préceptoreries de ton ordre, si tu ne te mesures avec moi à l'instant même. » Boisguilbert se tourna d'abord vers Rebecca d'un air irrésolu. Puis il s'écria en regardant Ivanhoé d'un air farouche. « Chien de Saxon ! « Saisis ta lance et prépare-toi à la mort. »« Le grand maître m'accorde-t-il le combat ?» demanda Ivanhoé. « Je ne puis vous le refuser, » répondit le grand maître, « si cette jeune fille vous accepte pour champion. Cependant, je voudrais vous voir plus en état de combattre. Vous avez toujours été un ennemi de notre ordre. Néanmoins, je désire agir honorablement avec vous. » « Je demande le combat à l'instant. » répondit Ivanhoé. « C'est le jugement de Dieu. Je me confie à sa bonne garde. Rebecca, continua-t-il en s'approchant de la chaise fatale, m'acceptes-tu pour champion ?»« Oui, oui, » dit-elle, agitée par une émotion que la crainte de la mort n'avait pu produire en elle. « Je t'accepte comme le champion qui m'est envoyé par le ciel. Mais non, non, tes blessures ne sont pas guéries. « Ne combats pas cet homme cruel. Pourquoi périr avec moi ?» Mais déjà Ivanhoé était à son poste. Il avait fermé sa visière et saisi sa lance. Boisguilbert en fit autant, et son écuyer remarqua, en attachant sa visière, que son visage, qui durant toute la matinée avait été couvert d'une pâleur mortelle, s'était subitement couvert d'un rouge sanglant. Le héros, voyant les deux champions en place, éleva la voix et répéta trois fois « Faites votre devoir, preux chevalier !» Après le troisième cri, il se retira sur un des côtés de la lice et proclama de nouveau que personne, sous peine de mort, n'osa, par des paroles, par des cris ou par des gestes, interrompre ou déranger le combat. Le grand maître, qui tenait en main le gage de la bataille, le gant de Rebecca, le jeta dans l'arène et prononça le fatal signal « Laissez aller !» Les trompettes sonnèrent et les chevaliers s'élancèrent l'un contre l'autre. Le cheval épuisé d'Ivanhoé et son cavalier non moins épuisé par la fatigue ne purent résister à la lance bien dirigée du templier et à la vigueur de son coursier. Les assistants avaient prévu ce résultat. Mais quoique la lance d'Ivanhoé eût à peine atteint le bouclier de Bois Guilbert, celui-ci, au grand étonnement de tous, chancela sur sa selle, perdit les étriers et roula dans l'arène. Ivanhoé se releva sur le champ et mit l'épée à la main. Mais son adversaire ne se releva pas. Le pied sur la poitrine et la pointe de son épée sur la gorge, Wilfrid lui ordonna de se rendre s'il ne voulait recevoir le coup de la mort. Mais Bois Guilbert ne répondit pas. « Ne le tuez pas sans confession, sire chevalier !» cria le grand maître. « Ne faites pas périr à la fois son corps et son âme. Nous le déclarons vaincu. » Il descendit dans la lice et ordonna de dénouer le casque du champion terrassé. Ses yeux étaient fermés et le sang affluait encore à son visage. Les spectateurs, qui contemplaient Bois Guilbert avec étonnement, virent ses yeux se rouvrir, mais ils restèrent fixes et ternes. Le sang se retira tout à coup et fit place à la pâleur de la mort. Sans être touché par la lance de son ennemi, il était mort victime de la violence de ses passions. « C'est véritablement le jugement de Dieu !» dit le grand maître en levant les yeux au ciel. « Fiat voluntas tua !» Chapitre 44. Après le premier moment de surprise, Wilfrid d'Ivanhoé demanda au grand maître, comme juge du champ clos, s'il avait fait son devoir dans le combat en chevalier loyal et courtois. « Tu t'es conduit avec vaillance et loyauté, répondit le grand maître. Je déclare la jeune fille libre et innocente. Les armes et le corps du chevalier décédé sont à la disposition du vainqueur. Je ne veux pas le dépouiller de ses armes, dit le chevalier d'Ivanhoé, ni condamner son corps à l'infamie. Il a combattu pour la chrétienté. C'est le bras de Dieu et non la main de l'homme qui l'a frappé aujourd'hui. Mais que ses obsèques soient simples, comme doivent l'être celles d'un homme qui est mort pour une cause injuste. Et quant à cette jeune fille ? Il fut interrompu par le bruit d'une troupe nombreuse de cavaliers avançant avec une telle rapidité que le sol était ébranlé sous les pas de leurs chevaux. Puis le chevalier noir entra à toute bride dans l'hélice. Il était suivi d'une bande nombreuse d'hommes d'armes et de plusieurs chevaliers armés de pied en cap. « J'arrive trop tard, » dit-il en regardant autour de lui. « Je m'étais réservé Bois Guilbert. » « Ivanhoé, est-ce bien de t'exposer à un pareil danger, étant incapable même de rester en selle ?»« Le ciel, mon prince, » reprit Ivanhoé, « s'est chargé du châtiment de cet homme orgueilleux. Il ne méritait pas la mort honorable que vous lui destiniez. »« Que la paix soit avec lui !» s'écria Richard en fixant ses yeux sur le cadavre. « C'était un vaillant champion. Il est mort en chevalier, » couvert de ses vêtements d'acier. Mais nous n'avons pas de temps à perdre. Bonne, fais ton devoir. » Un chevalier se détacha de la suite du roi et mettant la main sur l'épaule d'Albert de Malvoisin, il lui dit « Je vous arrête comme coupable de haute trahison. » Le grand maître, qui jusque-là était resté muet d'étonnement à l'apparition d'un si grand nombre de guerriers, prit enfin la parole. « Qui ose arrêter un chevalier du temple de Sion dans l'enceinte de sa propre préceptorerie et en présence du grand maître ? Par quelle autorité commet-on cet audacieux outrage ?»« C'est moi qui fais cette arrestation, » répliqua le chevalier. « Moi, Henri Bohun, comte d'Essex, lord grand connétable d'Angleterre. » « Et il arrête Malvoisin !» s'écria le roi en levant sa visière. « Par les ordres de Richard Plantagenet, ici présent. Conrad m'en fichait. Il est heureux pour toi que tu ne sois pas né mon sujet. Mais quant à toi, mal voisin, tu mourras, ainsi que ton frère Philippe, avant que le monde ait vieilli d'une semaine. » « Je résisterai à cette sentence !» s'écria le grand maître. « Fier templier, dit le roi, tu n'en as plus le pouvoir. Lève les yeux et vois le royal étendard d'Angleterre flotter sur les tours de Templestowe au lieu de la bannière du temple. Sois prudent, beau manoir, et ne fais pas une résistance inutile. Ta main est dans la gueule du lion. » « J'en appellerai à Rome contre toi, » répondit le grand maître, « pour usurpation sur les immunités et privilèges de notre ordre. » « Soit, » reprit Richard, « mais par amour pour toi-même, ne me traite pas maintenant d'usurpateur. Dissous ton chapitre et retire-toi avec tes compagnons dans une autre préceptorerie, si tu peux en trouver une qui n'ait pas été le théâtre d'une conspiration perfide contre le roi d'Angleterre. Ou, si tu le préfères, reste ici, comme hôte de Richard, et sois témoin de notre justice. Recevoir l'hospitalité dans un lieu où j'ai droit de commander ? Dit le templier. Jamais ! Chapelain, entonnez le psaume « Quare fremuerunt gentes ». Chevalier, écuyer et serviteur du Saint-Temple, préparez-vous à suivre la bannière de Beauséant. Le grand maître prononça ces paroles avec un ton de dignité qui semblait le placer au niveau du roi d'Angleterre et qui releva le courage de ses chevaliers, surpris et terrifiés. Ils se pressèrent autour de lui, comme les moutons autour du chien de garde, lorsqu'ils entendent les hurlements du loup. Mais ces hommes intrépides ne témoignèrent pas les craintes du troupeau alarmé. Leurs fronts audacieux se levaient d'un air de défi et leurs regards exprimaient des menaces que n'osait proférer leur bouche. Ils se réunirent et formèrent une sombre ligne de lance sur laquelle les manteaux blancs des chevaliers se détachaient au milieu des vêtements sombres des gens de leur suite, comme les bords lumineux d'un nuage obscur. Le peuple, qui avait poussé un cri bruyant et réprobateur, s'arrêta et contempla en silence ce corps formidable de guerriers éprouvés qu'il trembla d'avoir irrité, et s'écarta devant eux. Quand le comte d'Essex vit ces dispositions hostiles, il plongea les molettes de ses éperons dans les flancs de son cheval et galopa de long en large pour réunir ses soldats et les mettre en ordre de défense. Richard seul, comme s'il se fût complu dans le danger que provoquait sa présence, parcourait lentement le front des Templiers et leur criait « Eh bien, messire, parmi tant de vaillants chevaliers, n'y en a-t-il pas un qui veuille rompre une lance avec Richard ? Messire du Temple, vos dames ont le teint bien brûlé par le soleil, si elles ne valent pas une lance rompue en leur honneur. » Les frères du Temple, dit le grand maître, ne combattent point pour des causes aussi oiseuses et aussi profanes, et pas un Templier ne croisera la lance avec toi, Richard d'Angleterre. Le pape et les princes de l'Europe prononceront entre nous. Ils jugeront si un prince chrétien devait agir comme tu as agi aujourd'hui. Si l'on ne nous attaque pas, nous nous retirerons sans attaquer personne. Nous confions à ton honneur les armes et les biens de l'ordre que nous abandonnons ici, et nous mettons sur ta conscience le scandale et l'offense que tu as causé en ce jour au monde chrétien. » En achevant ces mots et sans attendre de réponse, le grand maître donna le signal du départ et les trompettes sonnèrent une marche d'un caractère oriental qui était le signal de route ordinaire des Templiers. Ils rompirent alors leur ligne et se rangèrent en colonne. Puis ils partirent au petit pas, comme pour montrer que c'était seulement la volonté de leur grand maître, et non la crainte d'une force supérieure qui les obligeait à se retirer. « Par l'éclat du front de Notre-Dame !» s'écria le roi Richard. Il est fâcheux que ces Templiers ne soient pas aussi fidèles qu'ils sont vaillants et bien disciplinés. Semblable au chien timide qui attend pour aboyer que l'objet de son défi ait tourné le dos, la foule poussa un faible cri au moment où les derniers rangs de la colonne sortaient de l'enceinte. Pendant le tumulte qui suivit la retraite des Templiers, Rebecca ne vit et n'entendit rien. Elle était serrée dans les bras de son vieux père, étourdie et presque sans connaissance, sous l'influence des incidents qui se succédaient si rapidement. Mais un mot d'Isaac la rappela enfin à elle-même. « Allons, dit-il, allons, ma chère fille, trésor qui vient de m'être rendu. Allons nous jeter aux pieds de ce brave jeune homme. »« Non, dit Rebecca. Oh non, 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 je n'ose pas lui parler en ce moment. Hélas, je lui en dirai plus que... Non, mon père, quittons à l'instant ces lieux funestes. »« Mais ma fille, dit Isaac, quitter ainsi celui qui est venu comme un homme fort, armé de sa lance et de son bouclier, pour te délivrer au mépris de sa vie, toi, la fille d'un peuple étranger au sien, c'est un service auquel nous devons toute notre reconnaissance. » « Elle lui est acquise, mon père, elle lui est acquise à jamais, » répondit Rebecca. « Mon âme en est pénétrée, mais pas à présent. Pour l'amour de ta Rachel bien-aimée, mon père, cède à ma prière, pas à présent. » « Mais, reprit Isaac, persistant toujours, on dira que nous ne sommes pas plus reconnaissants que des chiens. « Ne vois-tu pas, mon cher père, que le roi Richard est ici et que... « C'est vrai, ma très bonne, ma très prudente Rebecca. Sortons d'ici. Il aura besoin d'argent, car il vient d'arriver de la Palestine. Et même il sort de prison, dit-on. Et il trouverait facilement une excuse pour m'en demander, s'il lui en fallait une, dans les relations que j'ai eues avec son frère Jean. Allons, allons, quittons ces lieux. » Et entraînant sa fille à son tour, il la conduisit hors de la lice et la fit transporter en sûreté chez le rabbin Nathan ben Samuel. Quoique cette journée eût dû son principal intérêt à la situation critique où s'était trouvée la belle juive, elle se retira sans être remarquée. Le peuple portait toute son attention sur le chevalier noir. Il remplissait l'air des cris de « Vive Richard Cœur de Lion ! À bas les templiers usurpateurs !» « Malgré tout cet étalage de loyauté, » dit Ivanhoé au comte d'Essex, « il est fort heureux que le roi ait eu la précaution de t'emmener avec lui, ainsi que tant de ses braves soldats. » Le comte sourit et secoua la tête. « Vaillant Ivanhoé, » répondit Essex, « connais-tu assez peu notre maître pour lui attribuer une précaution si sage ? Je m'avançais vers York, ayant appris que le prince Jean s'y fortifiait. Quand j'ai rencontré le roi Richard accourant ici en véritable chevalier errant pour mettre fin en personne à cette aventure du Templier et de la Juive, je t'ai escorté avec ma troupe presque malgré lui. « Et quelle nouvelle apportes-tu d'York, brave comte ? » demanda Ivanhoé. « Les rebelles nous y attendront-ils ? » « Pas plus que la neige de décembre n'attend le soleil de juillet, » dit le comte. « Ils sont en pleine dispersion. » « Et qui crois-tu qui vint nous emporter la nouvelle ? Jean lui-même. »« le traître insolent, l'ingrat !» s'écria Ivanhoé. « Richard ne l'a-t-il pas fait arrêter ?»« Oh, il l'a reçu !» répondit le comte, « comme s'ils se fussent rencontrés après une partie de chasse. Et il a dit en me montrant, ainsi que mes hommes d'armes, « Tu vois, frère, que j'ai autour de moi quelques hommes irrités. Tu ferais bien d'aller vers notre mère, de lui porter mes hommages affectueux et de demeurer près d'elle jusqu'à ce que les esprits soient calmés. » « Et c'est là tout ? Ne pourrait-on pas dire que ce prince appelle la trahison par sa clémence ?»« De même, répondit le comte, qu'on pourrait dire d'un autre homme qu'il appelle la mort lorsqu'il entreprend de livrer un combat avant que ses blessures soient cicatrisées. » « Je te pardonne ta plaisanterie, seigneur comte, » dit Ivanhoé. « Mais fais attention que je ne hasardais que ma vie. Richard compromettait la sûreté de son royaume. Ceux qui ont peu de soucis de leur propre sûreté sont rarement bien attentifs à celle des autres. Mais hâtons-nous de nous rendre au château, car Richard songe sérieusement à punir certains membres subalternes de cette conspiration, bien qu'il ait fait grâce aux plus grands coupables. » D'après les informations judiciaires qui eurent lieu en cette occasion, et qui sont rapportés dans le manuscrit de Wardour, il paraît que Maurice de Bracy passa la mer et entra au service de Philippe de France. tandis que Philippe de Malvoisin et son frère Albert, précepteur de Templestowe, furent exécutés, quoique Waldemar Fitzurs, l'âme de la conspiration, eût seulement été banni, et que le prince Jean, au profit de qui elle était faite, n'eût pas même reçu un reproche de son frère. Personne cependant ne plaignit le sort des deux Malvoisins, qui ne firent que subir une mort qu'ils avaient bien méritée par une foule d'actes de déloyauté, de cruauté et d'oppression. Peu de temps après le combat de Templestowe, Cédric le Saxon fut appelé à la cour de Richard, qui était alors à York, occupé à pacifier les provinces que l'ambition de son frère avait troublées. Cédric fit d'abord quelques objections à cet ordre. Cependant, il ne tarda pas à y obéir. Dans le fait, le retour de Richard avait détruit tout espoir de restauration de la dynastie saxonne en Angleterre. Car quelque force que les Saxons eussent pu réunir en cas de guerre civile, il était évident que rien ne pouvait être entrepris sous la domination incontestée de Richard, populaire comme il l'était devenu par ses grandes qualités personnelles et par sa renommée militaire. Quoiqu'il tînt les rênes du gouvernement avec une sorte d'insouciance qui tendait tantôt à l'indulgence et tantôt au despotisme. D'ailleurs, Cédric avait reconnu, bien à regret, que son projet de cimenter entre les Saxons une union parfaite, par le mariage de Rowena et d'Athelstan, était absolument renversé par le refus mutuel des deux parties. C'était là un événement que, dans son zèle pour la cause saxonne, il n'avait pu prévoir. Et même quand il ne fut plus permis de mettre en doute l'éloignement réciproque des deux fiancés, il avait encore peine à croire que deux Saxons de race pussent refuser, pour des motifs personnels, de contracter une alliance si nécessaire au bien de la nation. La chose était cependant certaine. Rowena avait toujours témoigné pour Athelstan une aversion insurmontable. Et maintenant, Athelstan proclamait hautement et d'une manière positive qu'il renonçait à Lady Rowena. La nature opiniâtre de Cédric dut fléchir devant de tels obstacles. Toutefois, il tenta une dernière et vigoureuse attaque contre Athelstan. Mais il trouva ce rejeton ressuscité de la royauté saxonne occupé, comme les petits seigneurs campagnards de nos jours, à livrer une guerre furieuse au clergé. Il paraît que, après toutes ces menaces sanglantes contre l'abbé de Saint-Edmond, grâce à la bonté de son caractère et de son naturel indolent, grâce aux prières de sa mère Édith, qui, comme presque toutes les dames de cette époque, était fort attachée au clergé, la colère d'Athelstan s'était affaiblie. Tout ce qu'il fit pour satisfaire sa vengeance fut d'enfermer l'abbé et les moines dans les cachots de Königsbourg et de les y retenir pendant 3 jours au pain et à l'eau. Pour cette atrocité, l'abbé le menaça de le faire excommunier et dressa une liste épouvantable des maux d'entrailles et d'estomac que ses moines et lui avaient souffert par suite de cet emprisonnement injuste et tyrannique. Occupé de cette controverse et des moyens qu'il fallait employer pour résister à cette persécution ecclésiastique, Athelstan se montra tout à fait insensible aux arguments de Cédric. Et lorsque le nom de Rowena fut prononcé, le noble Saxon vida un grand gobelet à sa santé et à sa prompte union avec son parent Wilfrid. C'était donc un cas désespéré. Il était évident qu'il n'y avait plus rien à faire d'Athelstan. Comme le disait Wamba dans une phrase saxonne, c'était un coq qui refusait le combat. Deux obstacles seulement s'opposaient encore au consentement que les deux amants désiraient obtenir de Cédric. Son opiniâtreté et son aversion pour la dynastie normande. Le premier de ces deux obstacles céda peu à peu aux caresses de sa pupille et à l'orgueil que la renommée de son fils lui faisait ressentir. De plus, il n'était pas insensible à l'honneur d'allier sa race à celle du grand Alfred, maintenant que les titres au trône du descendant d'Édouard le Confesseur étaient à jamais abandonnés. La haine de Cédric pour la race des rois normands était en outre très affaiblie, d'abord par l'impossibilité de débarrasser l'Angleterre de la nouvelle dynastie, pensée qui tendait à le rendre sujet loyal envers le roi de facto, En second lieu, par les attentions personnelles du roi Richard, à qui plaisait l'humeur franche de Cédric. Et selon le manuscrit de Wardour, le roi se conduisit si bien envers le noble Saxon qu'une semaine à peine s'était écoulée depuis son arrivée à la cour que déjà il avait donné son consentement au mariage de sa pupille Rowena avec son fils Wilfrid d'Ivanhoé. Le mariage de notre héros, ayant ainsi obtenu l'assentiment de son père, fut célébré dans le plus auguste des temples, la belle cathédrale d'York. Le roi lui-même y assista, et les égards qu'il témoigna en cette occasion et en plusieurs autres aux malheureux Saxons, jusque-là opprimés et dégradés, leur donna un espoir plus certain d'obtenir l'exercice de leurs droits légitimes que celui qu'auraient pu leur promettre les chances précaires d'une guerre civile. Cette cérémonie fut célébrée avec toute la pompe que l'Église romaine sait donner à ses solennités. Goethe, superbement paré, accompagnait comme écuyer le jeune maître qu'il avait si fidèlement servi. Près d'eux était le magnanime Wamba, décoré d'un nouveau bonnet et de la plus magnifique garniture de clochettes. Ils avaient partagé les dangers et la mauvaise fortune de Wilfrid. Ils restèrent près de lui pour partager sa prospérité, comme ils avaient le droit de l'attendre. Outre cette suite de domestiques, on vit paraître à ces noces somptueuses les plus illustres Normands et les plus nobles Saxons. Le peuple célébra ce mariage par des réjouissances universelles, car le tiers-État regardait cette union comme une garantie de paix et de bon accord entre les deux races, qui depuis lors se sont si bien mêlées et dont la distinction s'est complètement effacée. Cédric vécut assez pour voir cette fusion en partie opérée. Car, à mesure que les deux nations se rapprochèrent et formèrent des mariages entre elles, les Normands perdirent de leur orgueil et les Saxons de leur rusticité. Ce ne fut cependant que sous le règne d'Édouard III que le nouvel idiome, auquel est resté le nom d'anglais, fut parlé à la cour de Londres. C'est alors aussi que la distinction hostile de Normands et de Saxons semble avoir entièrement disparu. Ce fut le surlendemain de cet heureux mariage que la suivante Elgitha vint annoncer à Lady Rowena qu'une jeune fille désirait paraître devant elle et lui parler sans témoin. Rowena fut surprise, elle hésita d'abord, mais la curiosité l'emporta. Et en ordonnant à Elgitha d'introduire la jeune fille, elle commanda à ses suivantes de se retirer. C'était une femme d'un aspect noble et imposant. Le long voile blanc dont elle était enveloppée couvrait, sans les cacher, l'élégance et la majesté de sa taille. Son maintien était respectueux, sans aucun mélange de crainte ou d'obséquiosité. Rowena était toujours prête à accueillir les demandes et à compatir aux peines des autres. Elle se leva et se disposait à conduire sa belle visiteuse vers un siège. Mais l'étrangère, en jetant un regard sur Elgitha, exprima de nouveau le désir de s'entretenir seule avec Lady Rowena. Dès qu'Elgitha se fut retirée, la jeune fille fléchit le genou, porta la main à son front et baissa la tête jusqu'à terre. Et malgré la résistance de Rowena, baisa le bord de sa tunique brodée. « Que veut dire cela ? » demanda la belle Saxonne. « Pourquoi me rendez-vous une marque de respect si extraordinaire ?»« Parce qu'à vous, dame d'Ivanhoé, » répondit Rebecca en se relevant et reprenant la dignité calme de sa manière habituelle. « Je peux à juste titre et sans m'exposer aux reproches, payer la dette de gratitude que j'ai contractée envers Wilfrid d'Ivanhoé. Je suis, pardonnez la hardiesse de mon hommage, je suis la malheureuse juive pour laquelle votre époux a exposé ses jours dans une lutte si inégale au champ clos de Templestone. Damoiselle, répondit Rowena, Wilfrid d'Ivanhoé, en ce jour mémorable, n'a fait qu'acquitter faiblement la dette de gratitude que vos soins charitables lui avaient fait contracter. Parlez, y a-t-il quelque chose en quoi, lui et moi, puissions vous être utiles ? Rien, dit Rebecca avec calme, à moins que vous ne lui transmettiez mes adieux et l'expression de ma reconnaissance. Quittez-vous donc l'Angleterre ? Demanda Rowena, à peine remise de l'étonnement que lui avait causé cette visite extraordinaire. Je l'aurais quittée, noble dame, avant que la lune ait accompli sa phase. Mon père a un frère qui est très en faveur auprès de Mohamed Bouabdil, roi de Grenade. C'est là que nous nous retirons, assurés d'y trouver le repos et la protection, moyennant la rançon que les musulmans exigent de notre peuple. Ne serez-vous donc pas aussi bien protégé en Angleterre ? Demanda Rowena. Mon époux jouit de la faveur du roi, et Richard est juste et généreux. Je n'en doute pas, noble dame, mais le peuple d'Angleterre est une race fière, querelleuse, et toujours prête aux troubles intérieurs. Un tel pays n'offre pas un asile sûr aux enfants de mon peuple. Éphraïm est une colombe timide. Issachar est un serviteur bien surchargé, qui succombe sous un double fardeau. Ce n'est pas une terre de sang et de carnage, entourée de voisins hostiles et déchirée de factions intestines, qu'Israël peut espérer de trouver le repos pendant qu'il erre d'un pays à l'autre. « Mais vous, jeune fille, dit Rowena, vous n'avez assurément rien à craindre. Celle qui a soigné Ivanhoé pendant sa maladie, ajouta-t-elle avec enthousiasme, ne doit rien craindre en Angleterre, où Saxons et Normands se disputeront l'honneur de la servir. » Votre langage est bienveillant, Notre-Dame, dit Rebecca, et votre intention meilleure encore. Mais cela est impossible. Il y a un gouffre entre nous. Notre éducation, notre culte, nous défendent également de le franchir. Adieu. Cependant, avant que je parte, accordez-moi une faveur. Le voile de l'hymen cache votre figure. Daignez le lever, et laissez-moi voir des traits dont la renommée parle avec tant d'éloges. Il ne mérite pas d'arrêter les regards, dit Rowena, mais je ne m'y refuserai point, à condition que vous m'accorderez la même faveur. Toutes deux levèrent leur voile en ce moment. Soit par timidité, soit par le sentiment intime de ses charmes, Rowena sentit ses joues, son front, son cou et son sein se couvrir d'une vive rougeur. Rebecca rougit aussi, mais ce fut une émotion passagère, dominée par des sentiments plus élevés. Cette rougeur se dissipa comme s'efface le nuage empourpré quand le soleil qui le colore plonge sous l'horizon. « Noble dame, dit-elle, le visage que vous avez daigné me montrer restera longtemps gravé dans mon souvenir. La douceur et la bonté y sont empreintes, et si une teinte des vanités ou de la fierté du monde vient se mêler à une expression si pure, comment se plaindre que ce qui est terrestre garde quelque chose de son origine? Je me rappellerai longtemps vos traits, et je bénirai Dieu de laisser mon noble libérateur uni à... » Elle s'arrêta tout à coup, ses yeux se remplirent de larmes, elle se hâta de les essuyer et répondit aux questions anxieuses de Rowena. « Je suis bien, noble dame, très bien, mais mon cœur se gonfle quand je pense à Torquilstone et aux lys de Templestowe. Adieu. Mais il me reste une dernière prière à vous faire. Acceptez cette cassette et ne dédaignez pas de porter ce qu'elle contient. » Rowena ouvrit la petite cassette ornée de ciselures d'argent que lui présentait Rebecca. Elle contenait un collier et des boucles d'oreilles en diamant qui évidemment étaient d'un très grand prix. « Il est impossible ! » s'écria-t-elle en rendant la cassette. « Que j'accepte un don de cette valeur !»« Gardez-le, noble dame, » reprit Rebecca. « Vous avez la puissance, le rang, l'autorité, l'influence. Nous avons la richesse, source à la fois de notre force et de notre faiblesse. La valeur de ces bijoux, 10 fois multipliée, n'égalerait pas la puissance de votre plus léger désir. Pour vous donc, ce présent est de peu de valeur. » Et pour moi, il en a moins encore. Ne me laissez pas croire que vous partagez les injustes préjugés de votre nation à l'égard de la mienne. Croyez-vous que j'estime ces pierreries étincelantes plus que ma liberté, ou que mon père y attache plus de prix qu'à la vie et à l'honneur de son enfant? Acceptez-les, noble Rowena. Pour moi, elles sont inutiles. Je ne veux plus porter de bijoux. Vous êtes donc malheureuse? demanda Rowena, frappée du ton avec lequel Rebecca avait prononcé ces derniers mots. « Oh, restez avec nous. Les conseils de nos hommes pieux vous arracheront à votre fausse croyance, et je serai pour vous une sœur. » « Non, » répondit Rebecca, dont la voix et les traits conservaient la même expression mélancolique. « Cela ne peut pas être. Je ne puis pas changer la foi de mes pères comme un vêtement qui ne convient plus au climat sous lequel je cherche une nouvelle demeure. Non, je ne serai pas malheureuse, noble dame. Celui à qui je consacrerai ma vie sera mon consolateur si j'accomplis sa volonté. » « Vous avez donc des couvents et vous voulez vous y retirer ?» demanda Rowena. « Non, noble dame, » dit la juive. « Mais parmi notre peuple, depuis le temps d'Abraham jusqu'à nos jours, il y a eu des femmes qui ont voué leurs pensées au ciel et leurs actions aux œuvres de charité, soignant les malades, nourrissant les pauvres et soulageant les malheureux. C'est parmi elles que l'on comptera Rebecca. Dites cela à votre noble époux, s'il lui arrive de s'informer du destin de celle dont il a sauvé la vie. » Il y avait un tremblement involontaire dans la voix de cette noble femme et une expression de tendresse dans son accent qui peut-être eût trahi ce qu'elle ne voulait pas exprimer. Elle se hâta de prendre congé de Rowena. « Adieu, lui dit-elle, puisse le Père commun des Juifs et des Chrétiens répandre sur vous ses bontés les plus douces. Le vaisseau qui doit nous transporter sera sous voile avant que nous ayons gagné le port. » Elle sortit de la chambre, laissant Rowena interdite, comme si une apparition avait passé devant elle. La belle Saxonne rendit compte à son époux de cette étrange conférence, et elle fit sur l'esprit d'Ivanhoé une profonde impression. Il vécut longtemps et heureux auprès de Rowena, car ils étaient attachés l'un à l'autre par les liens d'une affection d'enfance, et ils s'aimaient d'autant plus qu'ils se rappelaient les obstacles qui avaient retardé leur union. Cependant, ce serait porter la curiosité trop loin que de demander si le souvenir de la beauté et de la grandeur d'âme de Rebecca ne revenait pas à l'esprit d'Ivanhoé plus souvent que la belle descendante d'Alfred ne l'aurait désiré. Ivanhoé se distingua au service de Richard. Il fut honoré de nouvelles preuves de sa faveur royale. Il aurait pu s'élever encore plus haut sans la mort prématurée de ce héros au cœur de lion, devant le château de Chalut, près de Limoges. Avec la vie de ce monarque généreux, mais téméraire et romanesque, s'évanouirent tous les projets que son ambition et sa générosité avaient formés. On peut appliquer à Richard, avec un léger changement, les vers composés par Johnson pour Charles de Suède. Son destin devait s'accomplir sur une terre étrangère. Il reçut la mort au pied d'une humble forteresse et d'une main vulgaire. Son nom, qui fit trembler le monde, est resté comme un exemple moral et comme celui d'un héros propre à orner les pages d'un roman.